Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition avec mon camarade Stéphane Vrignot. On va parler de l'actualité de la Formule 1. Stéphane, t'es
salut
prêt
pour
cette semaine du Grand Prix
de
France?
Oui,
on sent un fond là dans les starting blocks, dis donc. Alors ça sera évidemment un des temps forts de notre podcast aujourd'hui, un échange avec Éric Boulier, le directeur général du Grand Prix de France. Et on parlera également des Bleus durant cette saison 2022, 11 courses disputées sur les 22 au calendrier. On va donc en profiter pour faire le point sur les demi-saisons de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Et puis on élargira aussi l'analyse d'ailleurs à l'équipe alpine dans son ensemble. Et puisqu'on est à la mi-saison, eh bien on a décidé de se prêter un petit jeu avec Stéphane, de livrer chacun une bonne et une mauvaise surprise qui a animé notre façon de voir le début de ce calendrier 2022. Et puis évidemment, on se mettra en condition pour ce Grand Prix de France après la victoire de Charles Leclerc en Autriche. Les Red Bull auront-elles retrouvé de leur superbe et les Mercedes confirmeront-elles au Paul Ricard? On en parle dans Les Fous du Volant, podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute Les Fous du Volant aujourd'hui, Stéphane, avec donc ce cadre de la mi-saison qu'on va mettre à profit pour parler des Bleus. De la Formule 1 en 2022, à savoir Esteban Ocon, Alpine et Pierre Gasly. On va les évoquer dans cet ordre-là. À tout seigneur, tout honneur, on commence par le mieux placé d'entre eux, Esteban Ocon, 8e du classement des pilotes avec un total de 52 points. Il est assez loin devant son coéquipier Fernando Alonso, qui occupe lui le 10e rang avec un total de 29 unités. C'est un bilan qui est plutôt intéressant hein, pour Esteban Ocon, Stéphane. Si on va chercher dans les chiffres.
Oui, alors il a une saison qu'on ressent comme un petit peu irrégulière, mais là, je notais, tu disais qu'il était 8e au championnat, c'est seulement à 12 points de Norris, et moi j'ai l'impression qu'on parle tout le temps de Norris, qu'il est tout le temps bien placé. Bon, ben, il est dans sa zone, entre guillemets, et c'est quelqu'un maintenant qui vise, là, le cran d'au-dessus, c'est Norris, 12 points au-dessus, donc c'est quasiment rien. Et puis je voyais que on a fait 11 Grands Prix, il est arrivé 9 fois, dont 8 fois dans les points, hors course sprint, mais ça signifie qu'il a une grosse régularité, c'est ce qu'on lui demande aussi. C'est lui qui tient la baraque du point de vue des résultats, puisqu'il y a une sorte de contraste quand même par rapport à Fernando Alonso qui subit un petit peu plus des problèmes techniques, les soucis de défaillance qu'a régulièrement l'écurie Alpine. Et il a fait son 100e Grand Prix quand même, hein. Ça commence à être un taulier en Formule 1, donc son 100e Grand Prix en Autriche. Et ce que je vois un petit peu, c'est que en regardant par rapport à l'année 2021, eh bien il est un petit peu mieux classé.
Ça, c'est
comme on peut le voir là. Oui, tout à fait. C'est assez amusant parce qu'il est 8e au championnat cette année avec 52 points. Au même stade de la saison l'an dernier, au 11e Grand Prix, il était 10e du championnat avec 39 points, dont les 25 points de sa victoire en Hongrie. Donc comme quoi, là, il a la force de la régularité. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et puis on voit que il y a une certaine constance aussi. C'est assez incroyable, mais pour ce qui est de ses meilleurs résultats en qualification, ce sont des 5e places sur les 11 premiers Grands Prix de la saison l'an dernier, sur les 11 premiers aussi cette année. Il est passé 5 fois en Q3, ça c'est peut-être un petit peu le côté un petit peu faible, je dirais, de ses qualifs, puisqu'on voit qu'il est encore, sa position moyenne c'est encore 11e, comme l'année dernière. Donc je dirais qu'il surperforme quand même de la qualif en course. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, on attend aussi que Alpine lui donne une meilleure voiture, tout simplement. Alors, les abandons, lui, il n'en a eu qu'un cette année. Meilleur classement 5e, donc l'année dernière il avait gagné, donc il est à peu près, oui, dans les temps de parcours de l'année dernière, même peut-être un petit peu mieux.
Tu vois, c'est drôle ce que tu nous dis, parce que on se fixait sur Norris, la 7e ou la 8e place, on peut se dire comme ça, ouais, bon, bah 7e ou 8e, ça fait pas une grande différence. Si, quand même, parce que quand vous terminez 7e du championnat, avec Ferrari, Red Bull et Mercedes, bah finalement c'est le premier des autres.
Ouais,
donc c'est un titre totalement officieux, mais quand même un petit peu honorifique, qui peut éventuellement vous permettre de prétendre à un guidon. J'entends, on parle trop de Tour de France en ce moment, un volant dans un top team. Moi, tu vois, je trouve que le bilan d'Esteban Ocon, il est solide. On le sent très sérieux en course. Et je me dis qu'il est peut-être même trop sérieux en comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso, qui montre régulièrement des fulgurances. On va en parler. On sait qu'Esteban Ocon, quand il était jeune, il avait une capacité. Alors, il était très fougueux. Hein, on se souvient de ses accrochages avec Sergio Pérez. Mais il avait cette capacité à créer des dépassements. Et là, on sent qu'il est prudent. Alors j'allais dire réfléchi, et de temps en temps faudrait peut-être un peu lâcher les coups. J'aimerais bien voir du Esteban Ocon qu'on revienne en quelques années en arrière.
Il était un petit peu plus sanguin effectivement avec Pérez, qui le poussait à ça dans ce jeu-là, et personne ne voulait céder, c'est clair. Mais il en a un autre sanguin normalement à côté de lui, c'est
oui.
Fernando Alonso.
Et sauf que lui, il a mûri.
C'est lui qui a pris de la bouteille, je
c'est
dirais.
C'est lui le vieux de la vieille en fait.
C'est ça, tout à fait. Et ce que je vois aussi dans la comparaison par rapport à Alonso, c'est pas mal du tout. Il s'en tire bien. Alors Alonso, quand même, il a quelque chose d'assez extraordinaire. Il a fait une deuxième place en qualification cette année.
À Montréal.
Voilà, il est mieux placé en général sur la grille. Là, je vois sa place moyenne, c'est 8e. C'est 3 rangs quand même devant Esteban Ocon. Il y a eu quelques petits couacs aussi en qualif, et puis des problèmes techniques, une sortie aussi, un crash. Je crois que c'était à Melbourne, voilà, qui lui ont coûté à Miami, pardon.
Oui, parce qu'à Melbourne, voilà. C'était une défaillance technique. Hein.
Exactement. Et le duel en qualif, pour l'instant, est légèrement à l'avantage d'Alonso si on tient compte de tout ça, 5-4. Et Alonso a abandonné un petit peu plus, mais je dirais qu'on lui demande d'être là. Et c'est ça, c'est que je trouve qu'il prend moins de risques en course et qu'il a compris une chose, c'est qu'effectivement, à la régularité, on peut bien se positionner au championnat, c'est ça qui est super important. Et il est aussi dans cette dynamique où on va lui demander d'être le taulier en 2023, en 2024, puisqu'il a signé jusqu'en 2024, alors que l'avenir d'Alonso est encore guillemets, quoi, en pointillé.
Exactement. Alors, si on élargit un petit peu le spectre de notre analyse, on a parlé d'Ocon, on l'a comparé un petit peu avec Fernando Alonso. Il y a peut-être des chiffres, hein, justement, à voir entre ces deux-là. On les a passés. Mais donc, ça veut dire qu'Alpine, en ce moment, au classement des constructeurs,
oui.
Et alors, quatrième ex aequo, ou plus exactement cinquième pour le moment, parce que le meilleur résultat de McLaren, qui compte également 81 points au classement des constructeurs, c'est une troisième place obtenue par Lando Norris, c'était à Imola. Le meilleur résultat pour Alpine, c'est une cinquième place. Voilà pourquoi donc au classement McLaren est devant Alpine, mais avec le même nombre de points. Petite comparaison quand même. L'année dernière, donc c'est pareil, hein, il y avait eu 22 Grands Prix, et si on reprend le classement après 11 épreuves, donc à mi-championnat, donc Alpine était déjà 5e du classement des constructeurs, mais avait 77 points, 81 points cette année. On voit qu'on fait un tout petit peu mieux, mais bon, c'est vraiment à la marge.
Et deux courses sprint.
Oui, exactement.
Voilà.
Mais l'année dernière, Alpine était à 90 points de McLaren. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un fossé et que
exactement.
Là, bon, McLaren est en difficulté, mais que cette quatrième place, elle est jouable. À la fin de la saison, quand on termine cinquième ou quatrième, pour un constructeur, ça change un peu la donne au niveau financier.
Oui, et alors tu parles de McLaren justement, tu vois, et dans cette progression, je dirais, d'Alpine, qui n'est pas toujours très très visible, on peut remarquer quand même une chose, c'est qu'en termes de pit stop, Alpine commence à s'aligner sur les meilleurs standards, et ça, c'est une vraie nouveauté. On avait reçu dans les fous du volant en fin de saison dernière Laurent Rossi, et on lui avait dit...
Tu l'avais titillé là-dessus, hein.
La dernière fois que le pit crew de Dan Stone a fait le meilleur temps dans la voie des stands lors d'une intervention, c'était en 2015, ça remontait à l'époque de Lotus avec Romain Grosjean, c'était je crois en Autriche, et depuis plus rien. Et Laurent Roussy nous avait expliqué qu'en fait, il y avait plus à perdre qu'à gagner dans ce type d'opération et que les adversaires, c'est vrai, c'était aussi autour d'eux, c'était principalement AlphaTauri qui ne jouait pas non plus à ce jeu-là où excellait Red Bull.
Bon. Ce qui était une bonne explication d'ailleurs, hein, parfaitement valable et parfaitement cohérente.
Complètement, complètement. Et là, en fait, figure-toi, Gilles, que coup sur coup, Alpine vient de réaliser les deux pit stops les plus rapides pour Fernando Alonso. Je vois que c'est à Bakou et à Silverstone. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, je dirais. Et quand on regarde au bilan des écuries les plus performantes dans ce domaine, eh bien, il y a McLaren, comme par hasard, qui arrive avec en tête avec 4 interventions les plus rapides depuis le début de la saison en 11 Grands Prix, devant Red Bull, 3 pit stops les plus rapides, et donc Alpine qui arrive derrière avec 2. Donc ça veut dire qu'il commence petit à petit à s'aligner, on ne le voit pas, mais je dirais que quand tu commences à resserrer un petit peu les temps d'intervention sur des choses comme ça, ça montre que ton personnel est de plus en plus focus et que tu demandes en fait à sortir de plus en plus les gens. Alors, on va pas parler de zone de confort, mais aller vers une capacité à prendre des risques.
C'est ça.
Et moi, c'est ce que je décèle là-dedans.
À cocher des cases, en tout cas de compétences, on va le dire comme ça, pour ensuite aller chercher. On rappelle hein, que on a donné à cette équipe Alpine, en gros, un calendrier sur 100 courses pour être en lice pour le titre mondial. Donc, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et quelque part, bah, sur ces 100 courses, il faut commencer effectivement à allumer en termes de performance des pilotes, ensuite dans l'équipe sur ce genre d'intervention. Et finalement, on voit que petit à petit, ça monte en puissance. Moi, je vois bien Alpine hein, aller chercher cette quatrième place parce que à égalité de points donc avec McLaren, Mercedes, on sent qu'il y a des tas de choses intéressantes à faire chez Alpine, alors que pendant ce temps-là, chez McLaren, on va avoir quand même une deuxième moitié de saison qui risque d'être un tout petit peu compliquée à gérer côté pilote avec notamment Daniel Ricciardo, hein, parce que ça va discuter fort. On a encore Alex Palou qui a été signé chez McLaren. McLaren, on va dire la holding,
oui.
Voilà. Et finalement, on ne sait pas pour rouler où. Donc, ça va être intéressant et ça risque de compliquer un petit peu la
gestion. Tout à fait, il y a une disparité parce que McLaren est sûr d'avoir un pilote, mais pour l'instant, je pense qu'ils n'en ont qu'un pour l'année prochaine et Alpine en a 3.
C'est ça.
Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ils jouent sur du velours quand même chez Alpine. C'est intéressant. Par contre, il y a encore un petit peu des axes d'amélioration, je dirais. Comme on dit dans ce cas de figure, parce que je vois par exemple là ce qu'on appelle les unsafe release. Je trouve que ça c'est encore un petit peu la marque d'Alpine de relâcher le pilote dans la voie des stands, au nez d'une autre voiture. L'accident est l'accrochage est évité de justesse. D'autres écuries le font, mais je vois par exemple que pour Ocon, à Imola, ça coûte 5 secondes. Et ça, faut se débarrasser de ces petites choses là qu'on fait beaucoup, qu'on voit beaucoup en essai libre. Mais qu'on voit aussi un petit peu en course, en l'occurrence à Imola. Alors, ça ne lui avait pas fait perdre de points puisqu'il était passé de la 11e à la 14e place. Mais il y a d'autres choses aussi qui tiennent un petit peu plus à la discipline et au comportement aussi des pilotes, leur capacité aussi à prendre des risques, qui coûtent du temps et qui coûtent des points. Je vois que Alpine a quand même récolté pas mal de sanctions, les pilotes, hein, depuis le début de la saison, et ça leur a coûté en tout 8 points. Voilà, donc ils pourraient être... avec une petite avance quand même, quatrième tout seul au championnat des constructeurs devant McLaren. Et je pense par exemple au zigzag là qui ont été controversés de D'Alonso au Canada devant Bottas dans l'avant dernier tour. Bon, mais ça coûte 2 places et 2 places qui sont données à Alfa Romeo,
oui,
qui est quand
plus.
Même potentiellement l'écurie. Voilà, si on regarde juste derrière, il y a Alfa Romeo. Une petite distance quand même, mais ça veut dire qu'on donne aussi des points à la concurrence, donc ça c'est pas très bienvenu, je dirais, voilà. Donc faut faire un petit peu attention à ça, je dirais, et ce qui a fait dire d'ailleurs à Laurent aussi dernièrement, on a eu un petit peu de difficulté à faire rentrer les deux pilotes dans les points alors que c'était possible, mais on a eu des petits soucis, on a pris des pénalités et ça s'est pas fait. Voilà, donc ça c'est maintenant, c'est l'étape suivante, je dirais, on en est très conscient chez Alpine.
Mais n'empêche qu'on voit que ça se construit petit à petit et cette équipe, même sans avoir effectivement de victoire pour le moment comme on en avait eu l'an passé, eh ben, elle arrive à, à monter finalement en gamme petit à petit en régime.
Et puis j'ajouterai un dernier point, tu allais peut-être y venir Gilles, c'est la fiabilité. On a parlé deux mots rien que lors de au départ de la course sprint à Spielberg. Alonso n'a pas pu démarrer à cause d'un problème électrique ou de boîtier électronique. Là c'est pareil, il part dernier. On nous dit qu'il a fait une belle remontée. Encore une fois, pour la deuxième fois de l'année, il est parti de la dernière ligne pour finir dans les points. C'est bien tout ça, mais
ça rapporte pas.
La Formule 1, c'est pas le championnat des remontées. Donc là aussi, c'est pareil, il faudrait se mettre un petit peu à niveau là-dessus. Et puis, dernier point quand même qu'on note, parce que tu donnes des faits positifs. Mais là, je dirais que ça, c'est peut-être aussi les 6 premiers mois de la gouvernance de Otmar Szafnauer. À la tête de l'équipe, il a vu ce qui, avec son regard extérieur, opérationnel, il a vu qu'il manquait peut-être des forces vives. Et Alpine va quand même recruter 75 personnes, ajoutées aux 850 que compte déjà l'écurie. Parce qu'on dit quelque chose de très très simple, nous devons être de la taille des grandes équipes pour les concurrencer sur la piste et les battre.
Il faut avoir de la matière grise. 75 personnes de recruter sur plus de 800, ça fait quasiment 10% en plus.
Avec un axe de recrutement précis, c'est... On fait venir des gens motivés et surtout avec la culture de la compétition. Donc, on n'est pas là maintenant pour... c'est pas un centre de formation Alpine.
On ne forme pas des petits jeunes, parce
qu'on va bientôt leur donner du prêt à gagner. Donc, il va falloir aussi franchir un cap à ce niveau-là. Et 2023, de toute façon, ça sera des podiums visés de façon régulière si Alpine veut viser la victoire aussi régulièrement et le titre mondial en 2024.
Alors, on continue notre tour d'horizon des Bleus en Formule 1 en cette saison 2022. On va terminer avec Pierre Gasly, qui doit quand même vivre une saison un petit peu difficile. Hein. Le Français qui est 13e au classement du championnat. Alors l'an passé, il y avait aussi 22 Grands Prix. À mi-parcours, Gasly était 8e avec 50 points. Il y avait eu un podium à Bakou. Et Pierre avait sans doute le sentiment de pouvoir jouer des coups, comme il l'avait fait à Monza en 2020. La voiture lui permettait effectivement d'être là aux aguets et sur un coup de génie, sur un coup de stratégie, on pouvait viser quelque chose. Là, on a quand même le sentiment que cette auto, cette année, elle ne lui permet pas de faire ça. Il peut essayer d'aller glaner quelques points par-ci, par-là, selon les circonstances, mais clairement, en termes de rythme, Pierre Gasly n'est plus tout à fait dans le jeu. Pas lui-même, hein, il n'a pas oublié comment on pilote une Formule 1. Simplement, on sent que l'AlphaTauri de 2022, ce n'est pas du tout celle de 2021, et encore moins celle de 2020.
À l'image de ces 43 tours qu'il a passé à bloquer, tu t'en souviens, Hamilton à Imola, là, cette saison 2022, pour Pierre Gasly, c'est un acte de résistance, tout simplement, je pense. Mmh. Il est tout le temps en mode guerrier, mais je dirais qu'il est obligé vraiment même de prendre des gros risques pour se battre, mais même juste pour montrer, c'est un petit peu l'impression qu'il me donne, à son équipe qu'il se bat, parce qu'il pourrait être résigné et faire des courses, je dirais, propres, terminer 10e, 11e, 12e, en nous expliquant que c'était le maximum possible, mais il va au contact quand même, et c'est un petit peu ça le signe, ça ne lui ressemble pas, c'est pas le Pierre Gasly des années précédentes. Je note effectivement, sur le dernier Grand Prix, il va au-delà des limites de la piste à 3 reprises, il fait partie des 4 pilotes sanctionnés de 5 secondes de pénalité pour ça. Et puis il s'accroche avec Vettel sur une attaque un petit peu sans objet à Miami. Il s'accroche avec Zhou aussi, Guan Yu Zhou, pardon, à Imola, ce qui fait qu'on sent vraiment que il va au-delà un petit peu de la limite de ce que peut faire sa voiture.
Et il n'est même
pas très à l'aise, je pense, au volant de cette voiture. Il n'arrive pas à en faire ce qu'il veut, précisément. Elle a un comportement assez inconstant, je pense. Et ce qui fait que il a beaucoup de mal. Alors, il y a quelques petites éclaircies, mais une en fait. Hein. C'est vraiment Bakou, comme l'année dernière. Ouais. Je note, hein, l'an dernier, 4e sur la grille, sur le podium. Et cette année, 6e sur la grille, mais un exploit monumental. Et 5e à l'arrivée.
Il a c'est un le truc maxi. Avec ce circuit,
oui,
hein,
tout
c'est
à fait.
Étonnant.
Tout à fait. Et à part ça, c'est vrai que c'est la difficulté à rentrer en Q3. Et à partir de là, tu fais des départs un petit peu mouvementés au cœur du peloton. Tu ramasses
exposé.
Un petit peu. Voilà, c'est ça.
T'es
et puis, ça fait boule de neige.
Oui, j'ai un peu peur, moi, en fait, que AlphaTauri soit en train de devenir Minardi. C'est-à-dire l'équipe,
Mais...
avant qu'elle soit rachetée donc, par le groupe Red Bull pour devenir Toro Rosso, c'était quoi, 2006, un truc comme ça, ouais.
Oui, exactement.
Et honnêtement, ça me fait un petit peu peur. Là, j'ai peur que finalement, cette piste AlphaTauri, enfin cette équipe AlphaTauri, ça soit une impasse pour Pierre. On avait évoqué... le bon plan, c'était que Daniel Ricciardo parte, on est désolé pour l'Australien, mais parte de chez McLaren et que le Français aille chez McLaren. Et avec un petit peu de recul, je me demande en fait si Pierre Gasly a été un jour ou pas sur la shortlist de Zak Brown. Je pense qu'il n'y a pas été, parce que de toute façon, on sait que Pierre Gasly reste maintenant chez AlphaTauri pour l'année prochaine aussi. Et je pense que Zak Brown, de toute façon, le seul truc qu'il a en tête, c'est de ramener un Américain en Formule 1, et je pense qu'en fait c'était un mirage que Pierre avait pas de chance, avait aucune chance d'aller chez McLaren. Je peux me tromper, hein, on n'est pas dans le secret des dieux. Voilà, là il va falloir maintenant, le timing va être un petit peu compliqué parce qu'il faut faire le dos rond comme il continue de le faire là cette année, espérer que ça aille un peu mieux l'année prochaine. En fait, c'est vraiment l'année prochaine,
espérer que ça aille mieux cette année, parce que Pierre dit une chose régulièrement, il faut maintenant des évolutions sur la voiture. On n'avance pas de ce point de vue là et on voit rien venir. Et l'AlphaTauri rétrograde petit à petit au classement. Là, je vois, ils sont combien? Ils sont 8e au championnat avec 27 points. Ils sont derrière Haas et ils sont devant juste Aston Martin. Ils sont pas vraiment à leur place. Place, ça devrait être normalement avec Alpine juste derrière. Mais là, ils sont quand même loin du compte. Ils sont en régression en fait.
Non, clairement, ils sont en difficulté. Et pour en revenir à l'avenir de Pierre Gasly, clairement, il va falloir essayer là de faire quelque chose cette saison, espérer que l'année prochaine la voiture puisse lui permettre de s'exprimer, parce que, alors ce qu'on dit là, c'est un peu négatif quand même, pas contre lui, on le dit, on le répète, hein, moi je pense que c'est vraiment un bon pilote, mais il a eu cette chance de rouler dans un top team. Malheureusement, elle lui a été enlevée très très vite, parce qu'il était peut-être après. Mais regardez ce qui est arrivé à Sergio Pérez. Sergio Pérez, il a roulé pour McLaren, il a fait une saison,
il a explosé,
il a dit merci, au revoir.
Au contact de Button.
Exactement. Ouais. Et puis, il a fallu 8 ans pour avoir une nouvelle chance. Donc, il faut continuer de travailler. Encore une fois, Sergio Pérez, en termes de persévérance, ça reste un exemple. Et il faut suivre cet exemple, continuer à travailler, continuer à attaquer. Et un jour ou l'autre, il finira par avoir une nouvelle opportunité.
Bah, surtout, c'est que ça fait plusieurs saisons que Pierre Gasly se met dans la tête de rejoindre un top team l'année suivante. Et ça commence en 2020, après sa victoire à Monza. Mmh. La question, c'est le retour chez Red Bull dès 2021. Et on comprend que Albon ne va pas continuer l'aventure, et Red Bull prend Perez quand même. Ouais. Donc c'est un signal un petit peu négatif. Et puis déception encore en 2022. Il espérait revenir chez Red Bull. Et puis là, on nous dit carrément, maintenant c'est verrouillé jusqu'en 2024, comme ça c'est clair. Et tu vas même faire 2023 chez AlphaTauri. Donc il n'y a même pas pour son manager à avancer. Je dirais ses pions, ses arguments dans le paddock pour aller voir
Zak
Brown.
Figé.
C'est complètement figé. Et c'est un petit peu désespérant. C'est ça. Moi, j'espère qu'ils ne sont pas en train de le casser, entre guillemets. Alors, Marco a dit, quand on se quittera, on se quittera en bon terme. Oui. D'accord. Ça ne nous avance pas tellement. Et je sais pas.
Ça, c'est une formule exceptionnelle. Tu as déjà dit à ta femme, quand on divorcera à l'amiable.
Non, je ne me projette pas dans ce cas de figure. Mais non, c'est un petit peu gonflé parce qu'il leur demande de faire 2023. Et puis là, voilà, quand tu seras bien rincé, quand tu seras bien essoré, on te laissera partir où tu voudras,
voilà,
sans pouvoir t'aider ni quoi que ce soit. Mais attends, c'est que Marco a dit quand même, Helmut Marco, donc le conseiller spécial chez Red Bull, il a dit ça sera donc terminé avec Red Bull, mais comme on sera en bon terme, on pourra peut-être avoir un avenir commun après. Alors là, moi, ça me laisse pourquoi. Bon, on verra bien.
Bon, je lui souhaite de trouver une autre option en tout cas, mais va falloir là tenir le coup sur la longueur pour Pierre Gasly. Alors, On est à mi-parcours dans ce calendrier 2022. Il s'est quand même passé beaucoup de choses hein, sur les premiers Grands Prix de la saison. Et on s'est demandé avec Stéphane ce qu'on pouvait vous proposer avant ce Grand Prix de France. Et on s'est dit, allez, tiens, chacun, on propose une bonne surprise et une mauvaise surprise. Par quoi on commence ? Allez, on commence par les bonnes.
L'idée, c'était de faire un petit peu le bilan, mais de façon différente, parce qu'on parle souvent des couacs de stratégie chez Ferrari, on sait ce qu'il en est chez Mercedes, mais les choses quand même globalement qui nous ont plu, qu'on n'attendait pas forcément, mais qui nous ont quand même ravis. Gilles ?
Eh ben, alors
moi, ça m'a scotché quand tu m'as dit ça, mais écoute, j'attends tes explications.
Moi, ma bonne surprise, elle est récente, mais c'est Sébastien Vettel. Alors, je sais qu'on va dire, mais il a pas regardé le début de la saison. Et si, alors c'est vrai que Sébastien Vettel, il est un petit peu loin au championnat en ce moment. Je ne l'ai même pas noté. Ouais, 14e avec un total de 15 points pour l'Allemand. Il n'a pas eu beaucoup de réussite sur les derniers Grands Prix, mais... Dès qu'il y a eu des évolutions sur l'Aston Martin, vous rappelez-vous hein, qu'on a soupçonné d'être une copie de la Red Bull, et ben hop, on l'a vu réapparaître sur les radars. Et moi qui étais persuadé que c'était l'année de trop pour Sébastien Vettel, qu'il avait accepté sans doute un gros chèque de la part de Lawrence Stroll pour venir faire le faire valoir auprès de Lance Stroll, donc en tant qu'ancien quadruple champion du monde, pour dire, vous avez vu, le petit jeune, il va vite. Et bien là, il est en train, je trouve, de montrer des choses. Alors, on l'a vu attaquer, on l'a vu aller chercher des points. Et je me dis que Sébastien Vettel est en train de retrouver goût au pilotage, au travail avec ses ingénieurs. Il y a quelques ingénieurs d'ailleurs qui ont été piqués chez Red Bull et chez Mercedes qui sont arrivés chez Aston Martin. On doit parler sans doute le même langage et petit à petit, ça commence à fonctionner. Et ben moi, j'aime bien cette histoire, tu vois, d'un garçon alors qui s'était perdu à un moment durant cette saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'épisode où il avait mis son slip par-dessus sa combinaison pour manifester contre la décision de la FIA d'imposer le port de sous-vêtements ineffugés.
Je crois que c'était à Miami.
Oui, enfin bon, voilà. Bref, ça, il a peut-être pris une insolation, un truc un peu bizarre, un cocktail qui n'était pas passé. Donc là, on se dit, bon, ça y est, il a lâché la rampe. On a eu Babi Choumi, là, c'était Papy Vettel. Bon, et ben non, il est en train de... Pour moi, il est en train de recoller les morceaux, de retrouver un peu ses premières amours avec la discipline. Et je pense qu'on va voir des belles choses, à condition que l'Aston Martin continue d'évoluer, que Lawrence Stroll, donc le propriétaire de l'équipe, trouve des fonds. Parce que ce qu'il se dit, c'est que ça a l'air d'être un petit peu compliqué maintenant. Et puis que surtout, voyant que finalement... le fiston est en difficulté face à Sébastien Vettel. Le papa, il se dit, bon, j'ai peut-être pas commencé à mettre toute ma fortune là-dedans parce qu'on va peut-être pas y arriver.
Tu parles de fortune, d'ailleurs, je te pose une question. Tu sais comment te faire une petite fortune en Formule 1
En la quittant?
Non, en partant d'une grosse. Alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés avec beaucoup d'argent et qui sont repartis les poches vides. Oui, voilà, tout à fait. Et okay. C'est peut-être ce qui va lui arriver. Mais alors, moi, je te trouve un petit peu sévère par rapport à Vettel. Aston Martin, c'est un beau projet dans le prolongement de Racing Point, qui était une écurie, je dirais, qui surfait sur une dynamique. C'était quelque chose d'intéressant. Et Vettel, c'est surtout un technicien, vraiment, dans l'âme, qui est passionné par tout ce qui est technique. Et il a décidé de signer chez Aston Martin, sur la base vraiment d'un projet alléchant, parce qu'il a déjà fait ça deux fois, c'est-à-dire participer à l'évolution, au développement d'une écurie chez Toro Rosso. Une écurie à laquelle il a apporté sa première victoire en Formule 1, et la même chose chez Red Bull. Donc ça compte, et ça ne lui fait pas peur de recommencer. Il n'est pas très vieux, il a 35 ans, mais je me pose quand même des questions sur sa motivation. Il a dit que là, il était en pleine réflexion, et avec sa famille, pour prendre une décision sur son avenir. Voilà. Et qu'il fallait peut-être qu'il soit réaliste, entre guillemets. Donc, si tu veux, quand tu es motivé, pose pas la question à ta famille. Alors après, il y a l'environnement familial, c'est la vie de famille aussi, ça c'est quelque chose de très important. C'est le côté un petit peu aussi qu'avait Michael Schumacher, la famille comptait beaucoup pour lui. Il y a beaucoup de pilotes qui sont encore assez libres, je dirais, entre guillemets, et qui se consacrent à 100% à la Formule 1. Vettel, c'est autre chose. Voilà. Et je pense qu'il peut-être mettre un terme à sa carrière. C'est même pour moi la plus grosse probabilité. Ce que je dirais, ce qui me fait un petit peu mal au cœur dans tout ça, quand même, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est qu'on sent une sorte de déclassement un petit peu au sein du peloton parce que quand on s'accroche avec Vettel, maintenant, c'est pas très grave. On pourrait s'accrocher avec Lewis Hamilton.
Voilà.
On sait tout de suite que c'est une grosse tuile.
Voilà, on a fait une erreur.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ou alors avec Verstappen. Bon. Et avec Vettel, c'est beaucoup moins grave. Même Mick Schumacher s'est permis de le faire. Je crois que c'était à Miami. Gasly à Spielberg. Donc, on ne fait plus trop attention à Vettel et c'est pas très grave. Et moi, pour moi, c'est ce sentiment-là que même dans le paddock, il y a cette... ce sentiment que c'est on n'a plus affaire exactement au quadruple champion du monde.
Ouais.
Voilà, qui sommeille et qui peut revenir. Bon, on verra bien.
Ça reste quand même un quadruple champion
mais,
du monde.
Oui, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée extraordinaire dans une écurie comme Aston Martin, surtout par rapport au deuxième pilote qui ne s'intéresse pas ou qui n'est pas vraiment motivé pour la technique, pour le travail. Enfin, on a l'impression qu'il ne se donne pas à 200%. Mmh. Et donc, ça veut dire que tout repose quand même sur Vettel. C'est encore lui qui est le plus rapide.
Mais je pense que ça lui plaît.
La difficulté un petit peu, c'est peut-être un problème de timing parce que tout va être en place dans la deuxième moitié de la saison 2023 chez Aston Martin. Je parle de l'usine, parle de la soufflerie. Il ne faut pas simplement terminer le dernier coup de peinture. Après, il faut l'étalonner.
Ça.
Et ça peut prendre des mois. Ça veut dire que tout va bien fonctionner à partir, je pense, de 2024. Et en plus, il y a des recrutements. Et ça sera un peu tard pour Vettel.
Alors, et toi, ta bonne surprise de cette première demi-saison 2022?
Ben, tu sais, on se posait encore beaucoup la question l'année dernière à cette époque. Est-ce que Ferrari va revenir? Est-ce que Leclerc est vraiment fait du même métal que des garçons comme Max Verstappen et Lewis Hamilton? On avait un petit doute là-dessus. Et pour moi, c'est quand même fondamentalement la bonne surprise. Saison apocalyptique en 2020 pour Ferrari, ils sont sixième du championnat. C'est le plus mauvais résultat depuis 1980, je crois, la dixième place du championnat 1980. Et puis... Charles Leclerc qui donne un petit peu l'impression de balancer sa saison, surtout en deuxième partie de saison, par rapport à Sainz qui commence à prendre le pas. Et on se souvient que les deux avaient fini
en
2021, ouais. Pardon, les deux avaient terminé avec un statut de co-numéro 1.
Voilà. C'est ce qu'on
donc,
vous avait dit, ouais.
Non, mais tout à fait. Et puis là, vraiment, là, il a remis les pendules à l'heure, quand même, clairement. Et je trouve que ça fait du bien. Voilà. Pour Ferrari, c'est le retour aux belles années. Je vois 4 victoires sur les 11 premiers Grands Prix. C'est le retour au rendement des années 2017 et 2018 où on a quand même vu Vettel champion du monde avec Ferrari. C'est pas passé très très loin.
On l'a cru en tout cas.
On l'a cru, voilà, c'est ça, pendant une saison et demie. Et on est reparti dans cette dynamique. Je trouve que c'est super intéressant. Et maintenant, c'est des podiums à la régulière. C'est 4 victoires, c'est 7 pole positions en tout pour Ferrari. Et puis, au niveau du moteur aussi, ils ont certainement le meilleur moteur. Ils préparent encore une évolution à la rentrée sur la base des problèmes de fiabilité. Ils vont faire passer en douce quelques petites évos sur le côté fiabilité. Et puis, ils vont profiter pour gagner quelques chevaux. Alors, ils sont deuxième au championnat à 66 points de Red Bull. Mais ils sont tellement mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils se battaient pour être troisième. Oui. Ce qui était le minimum, je dirais, pour Ferrari. Bon, voilà, ils sont bien. Et puis, du côté, moi, mon point positif vraiment aussi, c'est Leclerc qui se bat de façon propre avec Verstappen parce que c'est un pilote qui a une classe naturelle extraordinaire. Et je dirais que lui, il a réussi un tour de force. Il faut remercier Leclerc parce qu'il a fait de Verstappen un pilote plus calme. Je pense, clairement.
J'en suis pas sûr. Alors, moi, je pense que Verstappen
il dit
qu'il n'est pas inquiété.
Il s'énerve, il se défoule un petit peu à la radio, mais en piste, quand même, c'est le dernier exemple. Hein. C'est pas plus loin que le Grand Prix d'Autriche. Pas un coup de roue, pas une menace lors des 3 dépassements quand même de Leclerc. Une bataille propre, c'est ce qui nous a aussi apporté, parce que l'année dernière, on a beaucoup parlé d'accrochage, des courses qui n'étaient pas propres, je dirais, puis alors l'après-course, encore moins. Bon, et là, on est revenu quand même à quelque chose, c'est presque du pure racing, quoi. C'est vraiment un bel état d'esprit.
Moi, j'attends de voir, c'est vrai que parmi les observateurs de la Formule 1, on avait beaucoup fait le parallèle entre le duel il y a 2 ou 3 ans, entre Charles Leclerc et Max Verstappen en Autriche,
qui s'était 2019,
c'était il y a 3 ans, qui s'était soldé par la victoire de Max Verstappen. Et puis, ce Grand Prix d'Autriche, la dernière épreuve en date, où Charles Leclerc a dépassé 3 fois Max Verstappen, et on se dit, voilà, il a fait du chemin. Moi, j'attends de voir le jour où il y aura une victoire vraiment en jeu ou un titre. Et je pense qu'on retrouvera le Max Verstappen beaucoup plus agressif là en ce moment. Et pour l'instant, il est en contrôle, il gère. Charles Leclerc est encore loin, hein. Il y a 36 points d'écart entre les deux.
Oui, 36 ou ouais. 38.
38, quelque chose comme ça.
Oui, oui, tout à fait. C'est encore un petit peu loin, il y a encore un gros break de fait.
Mais il a franchi ce step. Ça y est, il l'a fait ouais. Et il est là. Et ça serait bien que ça se réduise encore cet écart d'ici là, la fin de la saison. On passe aux mauvaises surprises, Stéphane.
Alors moi, au petit coup de gueule, oui.
Ouais, bah moi, c'est pas un coup de gueule, moi, c'est une mauvaise D'accord. surprise. Honnêtement, quand on nous a parlé de la remise à plat du règlement aéro pour cette année 2022, le cap budgétaire, pour moi, c'était un règlement où une équipe agile, intelligente, devait absolument tirer son épingle du jeu. Et McLaren, les premiers essais qu'on a cet hiver, waouh, la première journée, on se dit, la McLaren, elle a l'air bien. Et puis, le train a déraillé dès le lendemain. Je crois que ça avait commencé par des problèmes de frein. Et ensuite, on n'a quasiment plus jamais revu la McLaren devant. Bah, c'est ça, ma déception de la première moitié de saison 2022. C'est cette équipe McLaren dans un contexte qui était vraiment fait pour faire exister ce genre de structure, hein, on l'a dit, qui s'est battu à un moment avec Ferrari pour la troisième place du classement constructeur l'année dernière, bah justement pour franchir ce stade et aller de nouveau briguer la première place. Après Imola, j'ai pensé que McLaren avait résolu ces problèmes qu'ils avaient eus. Et ben non, pas du tout. Ils sont retombés un petit peu dans l'anonymat et ils se retrouvent donc à la quatrième place au classement des constructeurs, à la bagarre avec Alpine. Et Alpine a inscrit 34 points sur les trois derniers Grands Prix, pendant que McLaren n'en a inscrit que 16. La dynamique, elle est en train de s'éteindre chez McLaren. On est en plus englué avec un problème pour la nomination de Daniel Ricciardo ou de son remplaçant. On aurait plutôt envie de dire la nomination du remplaçant de Daniel Ricciardo ou éventuellement si l'Australien devait rester dans son baquet l'année prochaine. Je suis un petit peu surpris parce que Zach Brown, ça me paraît être un bon dirigeant. Il a avec lui, autour de lui, notamment Andreas Seidel, qui était l'ancien patron de l'endurance chez Porsche et qui a vraiment fait un travail exceptionnel. Eh bien, ça plafonne un petit peu et je suis un petit peu déçu.
La voiture a quand même un comportement erratique d'un Grand Prix sur l'autre, d'une piste sur l'autre, et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Si ça va être le top 5 ou le top 6 en qualif, ou si ça va être deux éliminations
en Q2, c'était erratique. Aussi. Oui. C'était erratique en début de saison, oui. Et maintenant c'est mauvais ou moins bon.
Oui, voilà. Tout à fait, et en plus ils n'ont qu'un pilote vraiment qui se sent à peu près bien dans la voiture, parce que Norris a dit qu'il avait aussi fait des concessions, qu'il avait changé son style de pilotage pour s'en sortir un petit peu avec cette voiture. Quant à Ricciardo, il essaie de faire de la survie, encore et encore. Il nous promet qu'il est motivé, qu'il a un contrat jusqu'à la fin de la saison dernière. Je dirais que c'est presque la saison prochaine.
C'est mais
presque...
c'est peut-être un lapsus
réveillé. C'est peut-être la dernière. Mais ça veut dire que c'est presque une mauvaise nouvelle pour McLaren si lui a un contrat qui est bien ficelé et qu'il peut rester en place parce qu'ils n'auront qu'un pilote, ce qui est un petit peu inquiétant. Ouais, c'est un petit peu surprenant. Chez James Key, en fait, dit qu'effectivement, ils font le tour de tous les problèmes qui se posent et qu'en fait, ces premiers tests hivernaux ont donné une mauvaise lecture de la... Alors, on parle aussi de la suspension, l'exploitation des pneus, l'effet de sol. Ils sont dans un diagnostic, en fait, permanent. Je crois même qu'ils en savent moins aujourd'hui sur leur voiture que Mercedes, et que Mercedes qui a plus progressé dans la connaissance sur le marsouinage que McLaren qui reste englué là-dedans.
Alors et toi, ta mauvaise surprise ou ton coup de gueule?
Alors, ce que j'ai compris. Mauvaise surprise ou coup de gueule? Oui, parce que en fait, Gilles, on pense surtout aussi à l'avenir, aux jeunes pilotes. On sait qu'il y a un ou deux rookies qui arrivent par an en Formule 1. Et là, on se dit, mais surtout, quand est-ce qu'on va faire rouler ces jeunes pour voir un petit peu ce qu'ils valent? Et on est quand même intéressé au premier chef, puisque Théo Pourchaire est deuxième du championnat en Formule 2, qui va se battre, je pense, jusqu'au bout pour le titre. Donc, on a des espoirs de ce côté-là. C'est un pilote qui est dans le vivier de Fred Vasseur. Alors, c'est un pilote qui appartient à la filière Sauber en fait, qui est la base opérationnelle pour Alfa Romeo, et on attend qu'il roule. Et on aurait aimé qu'il roule, par exemple, au Grand Prix de France, au Castellet ce week-end, ce qui ne se fera pas par un événement, je dirais, indirect. C'était la suppression du Grand Prix de Russie qui n'a pas été remplacé au mois de septembre, ce qui fait que le Grand Prix de France a récupéré le programme de la F2 et Fred Vasseur ne veut pas faire rouler en fait son pilote en même temps en F1 et en F2. Et puis il y a plusieurs choses qui se greffent à ça, et je dirais que dans toutes les équipes c'est un petit peu la même chose. On repousse l'échéance et on ne voit pas ces jeunes se mettre en valeur. Un Piastri qui ne roule toujours pas chez Alpine. Incroyable. On espérait que ce soit au Castellet, et là c'est pareil, ils viennent de dire non, ce sera après le break, donc c'est toujours après. Et puis Fred Vasseur, il cherche dans tous les sens des solutions, puisque quand tu as un week-end avec une course sprint, ça signifie qu'il n'y a qu'une séance d'essai libre pour préparer la qualif, donc no way pour prendre un jeune pilote, évidemment. Ensuite, sur les Grands Prix qui sont un petit peu de début de saison, on ne peut pas non plus tester les choses comme ça. On nous dit aussi que quand il y a des évolutions qui sont programmées, eh bien, on ne va pas mettre un jeune pilote à découvrir des évolutions. Donc, ça complique encore plus. Donc, il reste très, très peu de solutions.
Et si on rappelle, bien, Stéphane, on rappelle que le règlement impose à chaque équipe de faire rouler deux fois dans la saison un nouveau pilote.
Alors,
en Formule 1, surtout, heureusement qu'elle existe cette règle, mais on se dit, là, il va peut-être falloir trouver autre chose.
Tout à fait. Et moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que pour Cher, pour l'instant, on le verrait à Austin et à Mexico, dans l'Alfa Romeo. Donc, intéressant, en dehors de son programme de Formule 2, ce qui est plutôt pas mal. Et juste avant la finale d'Abu Dhabi, alors s'il y a le titre qui se joue, alors on dit parfois que c'est un petit peu à double tranchant parce que ça peut être un vrai boost de confiance. Ça peut faire franchir un cap aussi en Formule 2, ou alors ça change les repères. Bon, alors ça c'est à voir, mais quitte à avoir cette chance qu'il réclame de toute façon, autant la prendre à cet instant de l'année. Mais pour l'instant, il n'y a que deux écuries qui ont fait tourner des jeunes pilotes, parce que c'est ça, Gilles, en fait. On voyait les années précédentes qu'il y avait des jeunes pilotes qui se payaient des tours de manège, quand même, faut dire ce qu'il en est, le vendredi matin, des gens qui n'avaient rien à faire là. Et là, ce principe-là, c'est quand même que tu as un jeune pilote dans une Ferrari, dans une Mercedes, dans une Red Bull, dans une McLaren, et là, on va voir autre chose. Et là, on va préparer l'avenir, et c'est intéressant, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Et puis, surtout, je te parle de Théo Pourchaire, mais on a un jeune pilote aussi qui s'appelle Itzhak Hadjar, qui est deuxième du championnat de Formule 3, à un point simplement de Victor Martins, un autre Français. Donc, il y a deux Français qui dominent quand même.
Côté jeune pilote en France, on est plutôt concerné.
Victor Martins,
moment,
voilà, c'est un pilote alpine. Donc, on aimerait aussi les voir dans cette dynamique, mais c'est plutôt Piastri qui, pour l'instant privilégié.
Rêve, mais...
Évidemment, on le comprend bien. Mais chez Red Bull, quelqu'un comme Helmut Marko, qui a donc le pouvoir de faire ou défaire les carrières, dit une chose. Il dit, Itzhak Hadjar est très intéressant, quel que soit son résultat en Formule 3, on va le faire monter en Formule 2 l'an prochain. Et si tout va bien, le plan, c'est de le mettre en Formule 1 en 2024. Ça va aller très vite. Il sent qu'il a un très gros potentiel. Il a signé comme ça, après une victoire à Monaco, en Formule Renault. Il est arrivé avec un contrat direct, ça s'est fait très très vite, parce qu'il a senti qu'il y avait, quelque chose à faire avec ce jeune talentueux.
Mais on moi, peut lui je faire dis, confiance là-dessus, il a quand même un nez.
Et j'attends de voir en fait qui sera, même Gilles, parlons-en clairement, dans la Red Bull pour le deuxième test jeune pilote, puisque c'était Youri Vips qui était dans la Red Bull, qui lui a dégagé pour les raisons que l'on sait, les tristes raisons que l'on sait, on ne va pas revenir là-dessus. Williams avait fait tourner De Vries aussi à Montmelo, mais ça, ce sont les deux seules équipes qui ont donné leur chance à des jeunes pilotes. Et écoute, avec Helmut Marko, ça va très vite. Il avait testé dans un environnement de Grand Prix Max Verstappen à 15 ans chez Toro Rosso. Il l'a mis dans une voiture quand il a confiance. Et je dirais que allez banco, je pense que si même il termine sa saison de Formule 3, je ne sais pas après s'il pourrait faire le meeting d'Abu Dhabi pour découvrir la Formule 2 Itzhak Hadjar, mais Helmut Marko, il est un peu comme ça, il prend des paris sur l'avenir, et je n'irai pas jusqu'à croire qu'il pourrait mettre Itzhak Hadjar dans la Red Bull sur une séance de qualification, sur une séance de essai libre un vendredi matin, mais je pense que l'idée lui trotte un petit peu dans la tête, et qu'en tous les cas, il sera peut-être au test d'Abu Dhabi en fin de saison.
Si je ne m'abuse, il avait fait rouler Max Verstappen pour la première fois dans une séance d'essai libre à Suzuka.
Tout à fait.
C'était pas
tout
sur
à fait.
Quel circuit.
Voilà, c'est ça. En plus, et en
tiens,
plus,
vas-y.
Et Fred Vasseur dit qu'on ne fait pas rouler des jeunes sur ce circuit-là parce que c'est juste pas un cadeau, que le circuit est très difficile techniquement à assimiler. Bon, non, tous les cas, Marco, il n'a pas hésité. Voilà. Donc, on sait qu'avec Isaac Hadjar, il n'hésitera pas. Mais on attend globalement en fait que ces équipes maintenant qui ont signé pour deux tests de jeunes pilotes dès vendredi matin s'engagent maintenant plus concrètement et on a envie de voir ces jeunes pilotes.
Ouais, exactement, parce qu'on veut voir la relève. On adore voir les anciens. On a beaucoup parlé de Fernando Alonso, de Sébastien Vettel aujourd'hui. Mais voir des nouvelles têtes et en particulier des Français, ça nous intéresse. Voilà, c'était le coup de gueule aussi de Stéphane. Alors maintenant, on va regarder juste devant nous ce qui arrive le week-end prochain, ce Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Et Stéphane, j'ai envie de te dire, on est dans une configuration presque idéale. J'en sais rien, il y a 38 points d'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Ça serait mieux s'il y en avait moins, mais Charles Leclerc vient de gagner en Autriche. Donc on se dit, bah allez, maintenant ça y est, on a vu les Ferrari qui menaient grand train quand même hein, en Styrie, ça aurait dû faire doubler. Bon, malheureusement, il y a eu la casse moteur pour Carlos Sainz. J'ai quand même le sentiment qu'on arrive à un moment là, ce Grand Prix de France arrive à un moment particulièrement intéressant dans la saison. Alors après, il va y avoir de quoi se reposer, se remettre un peu de nos émotions, mais entre donc cette Ferrari, Red Bull qui a quand même l'obligation à retrouver un petit peu ses repères parce que Red Bull n'a pas réussi à faire marcher ses pneus, que ce soit en performance ou en usure, oui, pendant ça. Ce Grand Prix d'Autriche. Enfin, Max Verstappen a vu trois fois passer Charles Leclerc devant lui. Je pense que ça, il doit en faire des cauchemars depuis. Il y a quand même rien qu'entre ces deux équipes-là. Un match qui va être intéressant. Et puis, il y a une troisième équipe qui monte en puissance, Stéphane. On l'attend. C'est peut-être pas un duel qu'on va avoir. C'est une bataille à trois, peut-être, qu'on va avoir.
Moi, je pense. J'en suis quasiment persuadé. Alors, pour Red Bull, quand même, ils ont gagné le Grand Prix l'année dernière au Castellet. Donc, c'est assez
intéressant. Avec un pari stratégique qui était exceptionnel.
Mais Mercedes, c'est vrai que c'est leur piste, quand même, depuis le retour du Grand Prix de France au Castellet. En trois éditions, Hamilton a fait deux pole positions et une deuxième place en qualif et deux victoires et une deuxième place en course. Ça veut dire qu'ils sont assez bien. Je ne suis pas persuadé qu'il aime beaucoup ce circuit-là. Il ne l'aimait pas du temps du GP2 quand il y avait tourné ou quand il faisait des essais en Formule 1. Mais je dirais que là maintenant, tout se présente assez bien et chez Mercedes, on nous répète même que là, c'est maintenant qu'il faut faire le gros coup pour plusieurs raisons. Alors, la piste convient bien aux caractéristiques de la W13, grande courbe rapide. Et puis, surtout, elle n'a pas de bosse.
Hélice.
Voilà. Donc, chez Mercedes, ils vont pouvoir rouler assez bas, comme à Silverstone. Donc, se débarrasser de ce fameux marsouinage. Et là, attention, parce qu'on a vu que à Silverstone, Lewis Hamilton était quand même prêt de se battre pour la victoire en fin de Grand Prix. Et puis, cette Mercedes, elle commence aussi à bien fonctionner sur tous les circuits. Mmh. On l'avait annoncé en difficulté à Spielberg. Ça s'est quand même pas mal passé, hein, globalement. Clairement. Et donc, ça veut dire que...
On en est quand même, Stéphane, à trois podiums consécutifs maintenant pour Lewis Hamilton. Quand on commence à faire une série de trois podiums consécutifs, c'est que la fenêtre éventuelle pour aller chercher une victoire, elle est là. J'ai envie de poser une question un peu bizarre en parlant d'un octuple champion du monde, mais... Est-ce qu'il n'est pas prêt
victoire ? Septuple, pour l'instant.
Ah oui, tu vois, c'est un lapsus là aussi. Est-ce qu'il n'est pas prêt pour la victoire, Lewis Hamilton ?
Alors oui, tout à fait. Moi, je pense réellement que oui. Et là, maintenant, il commence à dire, je ne me vois pas terminer la saison sans victoire.
Eh oui, il y a cet enjeu.
Et bon, je pense qu'au Castellet, il est bien. C'est un pilote qui est technicien, mais surtout qui aime beaucoup faire des expériences. Il fait que ça. Cette année, en termes d'essais de pièces techniques, c'est quelqu'un qui varie beaucoup ses trajectoires pour aller chercher le dernier centième de performance dans sa voiture. Et en 2018, quand il est arrivé, il a dit quand même, ce circuit est assez déroutant. Je suis même parfois perdu dessus parce qu'il y a plusieurs trajectoires. Et je varie les trajectoires, j'essaie différentes choses d'un tour sur l'autre et j'arrive pas vraiment à me décider. En tous les cas, ça c'est quelque chose qui est assez excitant. On a vu que ça fonctionnait bien quand même l'année dernière par rapport à Verstappen.
Il a
trouvé des solutions. Et puis je dirais que ça va peut-être aussi faire un petit peu polémique. On va voir s'il va pas y avoir des problèmes aussi un petit peu de track limit, comme on en a eu à Spielberg. Voilà, je pense peut-être au reste de la virée ou des choses comme ça où on va... Certains pilotes passent un petit peu large, où là, ça va peut-être faire débat on verra bien. Mais en tous les cas, je pense que Mercedes peut tenir quelque chose là, peut tenir en respect Ferrari et Red Bull et jouer la gagne, vraiment à égalité et même carrément viser la pole position dès samedi. Toto Wolff l'a dit, c'est plus une voiture de qualification qu'une voiture de course. On verra bien. Et puis, il y aura peut-être aussi un paramètre quand même à maîtriser aussi ce week-end. On attend des températures supérieures à 50 degrés sur le bitume.
Ouais, on annonce 37 degrés dans l'air.
Voilà.
Dimanche, donc c'est pareil. Hein, si vous êtes spectateur, n'oubliez pas surtout de vous équiper. Protégez-vous parce que ça peut mal tourner de passer plusieurs heures quand même avec des températures qui seront très très chaudes. On va voir aussi parce que il y a cette inquiétude. Alors là, on parle à ceux qui éventuellement vont aller sur place. Mais là, les ingénieurs, les patrons d'équipe, ils se disent attends, on va faire tourner nos voitures là dans des fournaises.
Ouais,
ça va être un vrai test aussi pour.
Je crois que c'était déjà le cas à Miami. Ouais. Mais le Castellet, c'est un rendez-vous traditionnel qui est très contraignant de ce point de vue-là. Alors bon, attention peut-être au ponton zéro du côté de chez Mercedes, ils savent gérer tout ça, mais ils ont parfois dégonflé le moteur pour tenir en termes de refroidissement.
Bon. Ouais, c'est clair.
En tous les cas, ils ont aussi refait le stock de pièces détachées parce qu'ils ont dit après les deux casques quand même assez spectaculaires
des qualifications, à Spielberg, ouais.
Voilà, ils ont dit nous on n'a plus rien. Ils avaient même ressorti une ancienne spec d'aileron pour Russell et Hamilton avait poursuivi avec le nouvel aileron parce qu'ils avaient cassé tout simplement les deux des trois nouveaux ailerons, donc il n'en restait plus qu'un. Et là maintenant, normalement, les deux voitures sont dans la même configuration. Donc à voir pour savoir un petit peu maintenant comment est-ce qu'elles vont être bien aussi. Est-ce qu'on va être bien en Vmax? Ça sera aussi à voir. Grande ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une chicane, mais...
avec un petit peu de vent aussi annoncé,
oui,
alors on verra exactement dans quel sens, hein, mais... Ça aussi, ça peut
ouais,
jouer.
Mais je pense qu'il y a plusieurs critères en tout cas favorables à la Mercedes par rapport à la Red Bull. Elle a d'habitude une demi-seconde de retard. On sera peut-être beaucoup plus proche, un ou deux dixièmes simplement, des meilleurs.
Mais en tout cas, on sent que le discours a clairement changé au sein de l'équipe Mercedes. On va voir, donc Ferrari, Red Bull et Mercedes vont jouer les premiers rôles. Forcément, Alpine va vouloir s'illustrer. On imagine que Pierre Gasly, s'il veut faire quelque chose, il sera particulièrement motivé sur ce tracé, même si je ne suis pas convaincu que l'AlphaTauri, là, ça soit vraiment son terrain de jeu. Bref, on n'attend que le début de ce week-end. Hein. Ça sera à 14h les premiers essais libres, vendredi, pour ce grand week-end du Grand Prix de France. Et finalement, maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, eh ben, c'est de recevoir le directeur du Grand Prix de France, Éric Boullier. Et par la magie de la technique, Éric Boullier est donc à nos côtés dans les fous du volant. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir rejoints. Vous êtes un visiteur assidu de notre podcast. Merci de nous avoir accueillis de nouveau pour à quelques jours de ce Grand Prix de France. On ne fait pas de mystère, hein, les gens qui suivent notre podcast, on ne leur cache pas, on enregistre cet entretien. On est lundi en début d'après-midi, on imagine que c'est une semaine compliquée pour vous. Je laisse le soin à Stéphane de vous poser la première question.
Alors Eric, après deux années marquées par le Covid, ce Grand Prix de France doit ressembler à ce que vous imaginiez, ce que vous rêviez en tant que directeur général.
Oui, alors toute l'équipe, hein, j'associe toute l'équipe à moi, parce qu'effectivement, quand on fait un événement comme celui-ci, 2020, après la prise de mes fonctions, j'avais dû annuler l'événement à cause de Covid. 2021, nous étions le premier événement, grand événement sportif sur le territoire français avec des spectateurs, mais limité à 3 jauges de 5000 spectateurs. Et donc là, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on va pouvoir, on va dire, s'exprimer pleinement et être même à guichet fermé.
Alors, vous avez presque un plateau de rêve, on va dire, en tant qu'organisateur, en plus de la F1, la Formule 2, la W Series, donc la série de courses féminines, la Porsche Cup, et avec beaucoup, beaucoup d'animation. Mais je dirais que ce qui est incroyable, c'est que d'une année sur l'autre aussi, il faut se réinventer un Grand Prix avec des idées. Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous allez présenter cette année au public?
Oui, parce qu'on avait utilisé, alors après l'annulation de 2020, on avait passé quelques semaines à aller sonder nos spectateurs, les interviewer, les interroger sur un petit peu les attentes des spectateurs du Grand Prix de France de Formule 1 qui étaient très orientés automobile. sport mécanique. Et donc cette année, effectivement, on a la chance d'avoir une manche du championnat de France de voitures radiocommandées. On a du FMX électrique. On va avoir des stunt shows, donc évidemment des démonstrations, on va dire, de stunt. Et puis voilà, on a tout un tas d'événements comme ça qui va être plus les concerts, le retour de la grande scène des concerts, une grande roue. Ça, si, c'est la nouveauté. Et donc, effectivement, on doit se réinventer chaque année. Et on a un groupe très créatif sur ce sujet-là, en tout cas.
Eric, votre emploi du temps, une semaine de Grand Prix, ça doit être réglé comme vraiment un emploi du temps d'astronaute, pour un départ de la NASA, non?
C'est un peu ça, oui. On a même créé, en fait, un calendrier dédié où c'est beaucoup. Entre les interviews, des obligations, je tiens à rencontrer tout, on va dire, tous les corps d'État, que ce soit de l'État, mais aussi les gens qui travaillent pour nous, les volontaires, les marshals. Donc j'ai pas mal de réunions, pas mal de prestations où je vais à leur rencontre parce que je tiens à les saluer, à saluer leur travail en tout cas, et leur présence, parce que sans eux, il n'y aurait pas de Grand Prix. Donc voilà, et je veux voir tout le monde.
Alors ce Grand Prix de France, c'est un Grand Prix qu'on nous présente de façon un petit peu inédite depuis le début de la saison. On a beaucoup vu les Ferrari et les Red Bull. Les quatre pilotes ont gagné. Mais là, pour ce Grand Prix, on a potentiellement, on le sent, six vainqueurs en puissance, puisque Mercedes nous dit « attention, la voiture progresse » et les caractéristiques du circuit du Castellet conviennent parfaitement à notre voiture. Et Hamilton dit qu'il est prêt pour gagner, bientôt.
Écoutez, ça ne peut pas être mieux en tant qu'organisateur d'un Grand Prix d'entendre trois écuries, six pilotes déclarer vouloir se battre pour la victoire. Ça ne peut être qu'excellent pour le spectacle en piste, pour nos spectateurs et les téléspectateurs, évidemment.
L'année dernière, on avait vécu un duel incroyable, stratégique d'ailleurs, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. À la base, vous, Eric, vous êtes ingénieur. Est-ce que les nouveaux règlements aérodynamiques, d'après vous, ça peut donner encore plus de spectacles qu'on en avait eu l'année dernière sur votre circuit?
Oui, déjà l'année dernière, on avait quand même été le troisième Grand Prix en nombre de dépassements sur la saison. Donc, on avait eu pas mal de spectacles sur la piste. C'est vrai que la nouvelle réglementation, et je crois qu'on l'a vu sur les premiers Grands Prix de la saison, permet aux pilotes, en tout cas, de se rapprocher des voitures devant et donc d'être dans une position plus facile pour aller attaquer, pour aller dépasser. Donc sur un tracé comme celui du Paul Ricard, effectivement, on va avoir pas mal, je pense, de batailles et beaucoup de dépassements de nouveau.
Alors la piste du Castellet a une petite particularité, c'est qu'à certains endroits, il y a plusieurs trajectoires possibles. Un garçon comme Lewis Hamilton dit qu'il varie même d'un tour sur l'autre. Et on risque peut-être aussi d'avoir des problèmes encore de track limit qu'on a beaucoup vu à Spielberg. Est-ce qu'il y a une petite crainte de ce côté-là pour vous?
Non, pas vraiment. À partir du moment où effectivement, il y a différentes trajectoires, déjà, ça offre quand même plusieurs possibilités aux pilotes de pouvoir se positionner différemment et de pouvoir attaquer différemment. Donc ça, c'est bien pour le spectacle. Après, sur l'histoire de track limit, effectivement, il y aura toujours un débat et le débat, je crois, continuera d'exister. Maintenant, voilà, il y a des règles qui existent et les règles sont appliquées, je crois. Donc, à partir de là, tout le monde est au courant, tout le monde le sait et tout le monde est averti, et notamment lors du briefing des pilotes.
Eric, je voulais évoquer avec vous un sujet un petit peu plus délicat. Il y a eu des débordements, en tout cas des comportements inappropriés dans le public lors du Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Est-ce que les organisateurs de Grand Prix, vous échangez entre vous des informations pour essayer d'éviter que ça revienne? Parce qu'on a vu là quand même que l'organisateur, enfin le promoteur du championnat voulait vraiment éviter à tout prix que ça revienne. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce que vous avez été sensibilisé? Est-ce que vous avez senti, vous, le public évoluer, même si ces dernières saisons pour votre Grand Prix, ça a été un petit peu compliqué justement d'avoir du public?
Alors non, il n'y a pas vraiment de forum aujourd'hui, en tout cas de débat entre promoteurs ou avec l'organisation du Grand Prix, avec l'organisation du championnat, pardon, la FOM. Mais on y est très sensible. Je crois qu'après, il y a différents types de publics. Je souhaite évidemment, et j'espère que le public français, qui est quand même le public majoritaire du Grand Prix de France, saura être fair play, comme on dit. Maintenant, et je crois qu'effectivement, depuis quelques années, la F1 a ouvert c'est qu'un autre communication. Donc, elle a rapproché le public, elle a rapproché les fans des pilotes. Et on sait qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes fan d'eux, vous n'avez seulement pas toujours une opinion très fair-play quand il s'agit de votre pilote ou de ses concurrents. Mais je pense qu'on peut encore le faire dans un très bon état d'esprit et je pense que ce sera le cas ce week-end.
Est-ce que vous vous sentez une responsabilité, vous, par rapport à ça, ou finalement, y a des pouvoirs publics et c'est à eux de gérer ça c'est...
On a tous la responsabilité, mais après, c'est pas, on ne peut pas choisir ses spectateurs. Donc, il faut avoir un maximum de communication. Je pense qu'il faut avoir un maximum d'ouverture d'esprit et puis faire en sorte qu'effectivement, on ne crée pas forcément de situations un peu compliquées, complexes, comme ça l'a pu l'être au Grand Prix d'Autriche.
Stéphane.
Alors, on se pose aussi la question de l'avenir du Grand Prix de France qu'on voudrait voir pérenniser, et vous y travaillez intensément avec les autorités de la Formule 1. On a vu débarquer le Grand Prix de Miami avec beaucoup de démonstrations comme les Américains les aiment. Un contrat signé pour 10 ans, on nous annonce Las Vegas pour 10 ans aussi. Ça veut dire que là, on est un petit peu dans une forme de gigantisme, on va dire. On a l'impression que certaines épreuves changent la culture un petit peu de la Formule 1. Vous êtes au milieu de tout ça. L'autorité de la Formule 1 veut restreindre aussi les Grands Prix européens. Mais est-ce que pour vous, au fond de vous, finalement, pour le Grand Prix de France, la meilleure solution, c'est de rester soi-même?
Alors, c'est toujours la meilleure solution de rester soi-même, de toute façon, puisque chaque Grand Prix développe sa propre identité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre profil de spectateur qui nous est propre. Nous, c'est à peu près 85% de Français, 15% d'étrangers. C'est à nous aussi de s'adapter. La F1, effectivement, est en train d'évoluer. Comme on en a un peu abordé le sujet tout à l'heure, la communication a fait que les fans, la population qui s'intéresse à la F1 se rajeunit. On a vu débarquer, grâce à l'ouverture des réseaux sociaux et la série Netflix et autres, une génération de 13-25 ans qui s'intéresse à la F1, qui ne s'intéresse pas forcément à la F1 comme, si je peux me permettre, vous et moi, on s'y intéresse parce qu'on a grandi avec ça. Et ils ne consomment pas, j'utilise un terme marketing, mais ils ne consomment pas la F1 comme vous et moi. Donc il faut s'adapter. C'est aussi l'évolution de la société, l'évolution de la F1. Et puis, bon, le propriétaire de la F1 est américain. Donc, comme il l'avait dit plusieurs fois, il voudrait bien que chaque Grand Prix soit un Super Bowl. Et c'est ce que tous les promoteurs, et je dirais quelque part tous les spectateurs et tous les acteurs de la F1 souhaitent aussi. Alors évidemment, oui, il y a, je pense, un changement de culture qui fait que la F1 va évoluer sur des événements un peu différents.
Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Parce que là, on sait que c'est la dernière édition du contrat actuel. Est-ce que vous avez des informations éventuellement à nous donner sur l'avenir du Grand Prix de France? J'imagine que c'est en discussion.
C'est effectivement en discussion. Après, Stefano Domenicali a été très clair. La France mérite d'avoir sa date au calendrier. Donc, on discute et on travaille effectivement à s'intégrer dans leur stratégie dans le futur.
Est-ce que ça passe? Parce que le Grand Prix de Monaco aussi a été remis en question. On demande maintenant un prix du plateau un petit peu plus important. C'est grosso modo le prize money. C'est ce qu'on verse au promoteur du championnat du monde qui sera ensuite réparti entre les équipes. Mais est-ce que ça passe un petit peu par faire grandir ce Grand Prix, accueillir un petit peu plus de public, ou le Grand Prix finalement a atteint sa définition idéale, je dirais, avec un Grand Prix convivial tel qu'on le connaît, sur un beau plateau, dans un beau décor? Qu'est-ce qui serait pour vous les arguments forts? On sait aussi que vous avez travaillé sur des choses qui sont vertueuses. Le Grand Prix de France est certifié FIA 3 étoiles au niveau des critères environnementaux. Donc ce sont des arguments forts aussi que vous mettez en avant pour dire aujourd'hui le Grand Prix de France, c'est quelque part aussi un Grand Prix modèle qui a toute sa place dans l'environnement de la Formule 1.
Tout à fait, ça fait, on est le seul Grand Prix, le seul organisateur de Grand Prix au monde à être certifié 3 étoiles. Donc ça a été un gros challenge, deux ans audité par la FIA. Nous en sommes très fiers, effectivement. Donc, le Grand Prix vertueux, c'était un mot un peu fort, mais effectivement, on essaye en tout cas s'inscrire dans la mouvance des Grands Prix modèles, de ce qu'un grand événement sportif devrait être, en termes notamment de développement durable, de RSE et autres. Et après, c'est par rapport à gérer la culture, et c'est tout l'écosystème que nous devons réviser, opter. Ça passe peut-être par une jauge un peu plus grande, ça passe aussi par forcément des accueils vis-à-vis des VIP. Il y a beaucoup de nouveaux sponsors en F1 qui souhaitent activer autour des Grands Prix. Il faut pouvoir aussi leur donner l'opportunité de se développer en termes de marketing, de communication, par rapport à l'investissement sportif qu'ils font dans le sport. Donc effectivement, il y a tout un tas de sujets qu'il faut anticiper, qu'il faut développer et pouvoir les accueillir.
Est-ce qu'on pourra vous recevoir l'année prochaine, en 2023, à quelques jours du Grand Prix de France, ou il y a dans les possibilités un Grand Prix de France qui soit biennal?
On verra, ça fait partie de toutes les discussions aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est s'inscrire dans la stratégie de la FOM, déjà avoir quelque part une réassurance sur le fait que la France pourrait faire partie du calendrier futur, c'est important. La FOM elle-même s'interroge sur la manière dont elle va gérer toutes les demandes qu'elle a. Donc, on a entendu parler de plusieurs villes, plusieurs pays qui souhaiteraient s'inscrire au calendrier. Il y a malheureusement un nombre de dates maximal, c'est pas inextensible. Et donc, effectivement, la FOM réfléchit à un nouveau modèle, donc on verra.
Qu'est-ce que, peut-être, on va conclure, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire dimanche soir après ce Grand Prix de France ?
La seule chose qui m'importe, c'est que ça aura été une très belle fête sur la piste, en dehors de la piste, et que 100% des gens repartent avec le sourire et l'envie de revenir.
Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Eric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans les Fous du Volant. On vous souhaite un bon Grand Prix de France.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Et ben voilà, un Eric Boulier qui semblait déjà être bien au chaud du côté du Castellet. On va vous donner quand même les horaires de ce Grand Prix parce que vous ne serez pas sans doute tous sur place. Les premiers essais libres débuteront vendredi à 14h. La qualif, ce sera samedi à 16h. On annonce 34 degrés pour la qualif. Et alors dimanche pour le Grand Prix, départ à 15h, 37 degrés. Bon, il faut prévoir de quoi se déshydrater là.
Exactement,
parce que ça va être très chaud.
Très important.
Bon, en tout cas, on est impatients de voir ce Grand Prix de France. Je ne sais pas, il y a une électricité dans l'air. Il va se passer des choses.
Ah bah, je te dis, on a eu une course de dingue vraiment l'année dernière. Et on attend la même chose cette année.
Ouais, puis la dernière course n'avait pas été mal non plus.
Oui.
Donc on se dit que là, en ce moment, on est plutôt dans une bonne dynamique.
Enfin, tous les ingrédients sont là sur le plateau Varrois.
Exactement. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On vous souhaite un bon Grand Prix de France et on se retrouve la semaine prochaine dans les Fous du Volant. Stéphane, d'ici là,
on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.